Guinée orientale. J'ai reçu totalement cette
histoire. Moi, c'est Céline de Lubumbashi au Katanga. Je pense qu'on peut, en combinant les deux, la justice de mes présidents, trouver une solution par rapport à ça.
Bonjour à tous et merci d'avoir choisi Radio Capi qui vous propose Parole aux auditeurs. Pour rentabiliser les recettes de l'État, Jean-Yves Parent, expert fiduciaire KPMG, préconise le regroupement des régies financières de la RDC. Il l'a dit à l'issue du forum du développement de l'industrie et des redressements productifs organisé à Kinshasa du 8 au 11 avril 2015. Selon l'expert français, la DGI, la DGRAD ainsi que la DGDA devraient constituer une seule régie financière. Il propose également le rajeunissement du personnel et la réduction du nombre d'agents au cours des missions fiscales. Certains observateurs estiment que ces mesures peuvent contribuer d'une manière efficace à lutter contre la fraude fiscale. Qu'en pensez-vous? 081-890-6315, c'est le numéro d'appel pour intervenir en direct dans ces magazines mis en monde par Jean-Claude Chiala. Julie Faisa est à la réalisation et Thierry Lamégie à la présentation. Fidèles auditeurs, bienvenue à tous.
Parole aux auditeurs, Thierry Lamégie.
Comment arriver à rentabiliser les recettes de l'État, la lutte contre la fraude fiscale? Jean-Yves Baron, je le disais tout à l'heure, un expert fiduciaire français, au cours du forum sur le développement de l'industrie, le redressement productif organisé ici à Kinshasa au courant de ce mois d'avril, estime qu'il faudrait arriver à regrouper les trois régies financières de la RDC, la DGI, la DGRAD ainsi que la DGDA dans une seule structure. Il faut rajeunir le personnel et réduire le nombre d'agents qui partent en mission fiscale. Voilà autant de petites solutions préconisées par cet expert. Beaucoup nombre de personnes pensent que d'une manière plus efficace, cela peut contribuer à lutter contre la fraude fiscale et rendre plus performant la mobilisation des recettes au pays. Nous avons associé à cet échange Michel Sommet, économiste, et il a aussi été intervenant au cours de ce forum qui s'est tenu ici à Kinshasa. Michel Sommet, vous êtes avec nous. Bonjour.
Bonjour.
Merci d'avoir accepté notre invitation. Quelles ont été les grandes lignes développées au cours de ce forum avant que nous puissions aborder la question consacrée à cette proposition sur les régies financières?
Ben, merci de m'associer à ce débat. Je voudrais d'entrée de jeu dire que le forum, comme l'intitulé le dit, il a concerné essentiellement les stratégies ou la lecture des contraintes et des atouts pour faciliter le développement de l'industrie et le redressement productif en RDC. Alors, il y a eu toute une série de thèmes qui ont été développés, en commençant d'abord par ce que nous connaissons comme étant des contraintes à ce développement industriel. J'allais même dire les contraintes à l'éclosion d'une quelconque industrie, ou tout court les contraintes à l'industrialisation de la RD Congo. C'était le premier principal thème qui a été abordé. Après avoir passé en revue les diverses contraintes qui sont de divers ordres, notamment les contraintes infrastructurelles et énergétiques, il y a des contraintes d'ordre financier, parmi lesquelles on trouve la question de l'équité, notamment, comme vous l'avez abordé, donc le problème du financement de l'industrie, l'accès aux moyens de financement. Il y a eu, après avoir analysé toutes les contraintes, comme c'est passé en revue, je ne vais pas citer toutes, on a proposé des solutions. Et c'est parmi ces solutions que vous trouvez notamment l'exposé de Yves Parent sur la stratégie de relance des usines industrielles. En fait, c'était, après avoir lu ensemble toutes ces contraintes, telles qu'elles se dessinent dans notre pays, quelques experts devaient intervenir chacun sur son thème pour proposer des solutions qui sont diverses. Mmh. Et parmi ces solutions, il y a eu justement celle dont vous parlez, celle de Yves Parent, qui parle de la modernisation du cadre légal et fiscal. Mmh. Alors, je viens de dire qu'on a parlé des contraintes infrastructurelles aussi. On a parlé de contraintes énergétiques aussi. Mmh. On a parlé des contraintes liées à l'accès au financement. Donc, toutes ces contraintes ont, de l'autre côté, ou de l'autre face, des propositions de solutions qui sont développées par différents experts. Mmh. Donc, Yves Parent n'est pas le seul à avoir répliqué à ses contraintes. Il a absorbé, ou plutôt il a jeté un regard sur l'un des aspects qui ont été développés, un seul aspect d'ailleurs, qui n'est pas forcément le plus important. Mais je crois que son thème vaut le présent d'or dans la mesure où nous venons de, nous sommes engagés déjà dans le découpage territorial, comme on l'appelle, avec des nouvelles provinces qui viennent de se créer. Et donc, la question de la fiscalité est une question très pertinente aujourd'hui, d'autant que la plupart de ceux qui vont diriger les différentes provinces risquent de n'avoir de regard fixé que sur les impôts et les taxes à prélever sur les poches des populations déjà très pauvres. Et donc, la réforme du cadre légal et du cadre fiscal tel qu'elle a été développée par Yves Parent, d'ailleurs, qui a été repliqué tout de suite par Dieudonné Locali, qui est le DG de la DGI, mérite tout à fait qu'on s'y attarde et qu'on examine la possibilité pour l'économie congolaise, à partir de la nouvelle province, de trouver d'autres issues pour le financement de leur existence, de leur consistance.
Voilà. Alors, Michel Somoué, on a proposé, comme on l'a dit, une proposition, le regroupement des régies financières, vous qui êtes économiste. Si on peut faire un pas en arrière, permettre aux auditeurs de comprendre, nous avons la DGI, la DGRAD, la DGDA, les trois régies qui sont concernées, mais dans un passé, comment cela était-il structuré, en ce qui concerne la mobilisation des recettes pour vous, les économistes, avant qu'on puisse avoir ces trois régies, comment dans les temps on était organisé pour la mobilisation de ces recettes? Parce qu'on ne peut pas proposer une réforme si on ne peut pas jeter un coup d'œil en arrière pour voir si ce qui a été fait dans les temps pouvait être rentable et qu'est-ce qu'on peut tirer de cela avant qu'on puisse se projeter dans l'avenir.
Dans le temps, c'est-à-dire avant les trois régies existantes.
Avant les trois régies existantes, oui.
Pardon ? Avant les trois régies existantes, vous voulez dire ?
Exactement.
Oui, nous savons que dans ce pays, à l'époque coloniale déjà, Les recettes de l'État provenaient essentiellement, comme d'ailleurs un peu aujourd'hui, des droits de porte, comme on les appelle, c'est-à-dire les droits d'entrée et les droits de sortie. Bien que le Congo avait été décrété en 1885 comme étant la zone de libre-échange, mais l'essentiel des recettes de l'État relevait essentiellement des droits de sortie. Parce que souvenez-vous que les impôts qui étaient payés à l'intérieur du pays étaient faits essentiellement en nature. Parce que nous n'avions pas, nous les Congolais, n'avions pas accès à la circulation de la monnaie. Nos salaires étaient payés en nature et même nos peines parfois, ou les peines que nous étions condamnés à payer étaient souvent aussi faites en nature, c'est un nombre de chicotes. Donc nous n'avions pas accès à la civilisation monétaire. Ça fait que l'impôt pour les nationaux était généralement payé à nature, jusque dans un passé relativement récent.
Oui.
Vous vous souvenez des colons défendus dans nos villages, jusque dans les années 60, après 60 d'ailleurs aussi, pour prélever les impôts sur la production de coton et autres, c'était en kilo, et certains devaient donner une quantité donnée de coton, ou sûrement de quel produit agricole, et qui tenait lieu d'impôt, ou de taxes, c'est selon. Mais avec l'indépendance, avec la civilisation, avec la mondialisation, mais d'ailleurs, c'est un peu paradoxalement d'ailleurs, mais la DGDA, a pris la responsabilité de gérer les droits de port, c'est-à-dire les droits d'entrée et de sortie de marchandises sur le territoire du pays ou en sortant du territoire du pays. Et on a créé la Direction générale des impôts qui, elle, était spécialement concernée par les impôts payés à l'intérieur, sur la consommation intérieure. Et plus tard, c'est-à-dire vers les années 90, on a créé la DGDA qui devait, elle, s'occuper des recettes essentiellement administratives, judiciaires, domaniales, comme on les a appelées. Je me souviens m'avoir participé au départ au projet qui a fini par mettre en place la DGDA. L'idée fait partie de nous au ministère du budget en 1994 avec M. Mamboul comme ministre. Mais ce n'est pas nous qui avons concrétisé l'idée, on avait lancé l'idée, elle a été finalisée, je crois, par le ministre Aïpaï aux Finances. Et c'était pour qu'on puisse séparer les impôts qui sont en fait, il faut dire les choses telles qu'elles sont, les impôts sont en fait la confiscation du surplus de richesse qui risque de créer des inégalités profondes. C'est comme ça qu'Aristote avait créé l'impôt. C'était une confiscation de l'État. Surtout les revenus des citoyens qui tendaient à dépasser de façon significative la moyenne du pays. Parce que trop de personnes par rapport aux autres, ça créait l'inimitié, ça détruisait l'amitié. Et vous savez bien que pour Platon, pour Aristote, l'amitié était un principe sacré. Alors, la taxe, c'est autre chose. L'impôt, c'est que l'impôt n'a pas de contrepartie. Mais la taxe, par contre, elle a une contrepartie. Alors, en allant plus loin, on a pensé qu'il fallait donner à la DGI la responsabilité des impôts, et on a créé des taxes administratives pour les céder à la DGDA, pour la gestion des taxes. Ces taxes ont une contrepartie. Mais aujourd'hui, avec toujours la décentralisation, avec la démocratisation, avec ce qui arrive tous les jours, nous avons maintenant des régies financières provinciales.
Provinciales, oui.
Qui viennent pratiquement prendre une partie des responsabilités de la DGI et une partie des responsabilités de la DGDA, mais sur le plan provincial. Cela fait que, quand ça a été relevé, même au forum, il y a une énorme multiplicité de taxes qui frappe maintenant le contribuable.
Oui.
Il y a même une redondance de ces taxes qui décourage, qui démobilise, qui démotive l'activité économique et qui étrange dans l'œuf toutes les chances d'industrialisation de notre pays. Voilà pourquoi il était important de jeter des regards sur cette fiscalité étouffante, étranglante,
merci,
qui est essentiellement conduite par ces trois régies et leur fiole, si on peut dire comme ça, qui sont les
voilà. Alors, Michel, comment on va revenir à vous pour voir d'abord l'avantage, parce qu'on a ces trois régies, est-ce qu'il y a-t-il un avantage dans le travail de ces trois régies par rapport à la mobilisation des recettes? On va revenir à cette question, juste après qu'on ait aussi écouté les auditeurs, parce que le standard est déjà ouvert. Il y a Maître Adrien qui est à Kananga Omar ici à Kinshasa. Vous préparez cette réponse par rapport à l'avantage, n'est-ce pas, de ces trois régies financières, et puis on pourra aussi voir quels sont les inconvénients pour qu'on voie dans quelle mesure, si possible, la proposition peut porter apporter des solutions à ces problèmes. 081-890-7315.
Parole aux auditeurs.
Maître Adrien, vous êtes à Kananga, au Kassai Occidental. Bonjour.
Oui, bonjour, Pierre Lamengi. Bonjour à M. Michel Somoin.
On vous écoute, Maître Adrien.
Bon, Pierrot, je pense que la thématique est importante dans la mesure où, d'ici quelques jours, la plupart de nos provinces seront scindées et les nouvelles provinces, tout comme les anciennes, auront besoin vraiment de ces régies financières pour leur fonctionnement. C'est pour cela que je suis en train de répondre maintenant à votre question par rapport à leurs avantages. Donc, le premier avantage d'abord de ces trois régies financières, nous constatons que les contribuables sont fixés par rapport à leur partition, par rapport, donc on leur a allégé la tâche, parce que dans un passé récent, tout était concentré par une seule régie financière. Mais ici, il y a une sorte de décentralisation dans ces domaines, et c'est ce qui fait que les contribuables sont fixés par rapport à ce qu'ils doivent faire et par rapport à ce qu'ils ne doivent pas faire. Et puis, deuxième avantage, nous voyons très bien que les trois régies financières, lorsqu'elles travaillent sans désemparer, elles contribuent à une augmentation donc, par rapport à notre économie nationale, ce qui fait que lorsque vous suivez les régies financières les unes et les autres, on vous dit qu'il y a accroissement de tel ou de tel chiffre, parce qu'on a essayé un peu de décentraliser ça. Mais le plus grand inconvénient, Pierrot, c'est le manque de sensibilisation des contribuables, parce que certaines personnes qui n'aiment pas ce pays crée une certaine confusion. C'est ce qui fait que les contribuables peuvent se retrouver avec un même impôt ou bien une même taxe à gauche et à droite, et c'est ce qui crée toujours de la confusion. Donc je pense que la sensibilisation des contribuables, la vulgarisation reste vraiment le maître mot pour aider vraiment la population, parce que nous sommes sur le terrain. Nous nous rendons compte qu'il y a toujours des problèmes, et ces problèmes-là sont même créés par ces régies financières. Il y a une sorte de dispute. On ne sait pas qui fait quoi sur terrain et qui est autorisé de prendre tel impôt ou telle autre taxe. Donc, c'est ce qui fait que la sensibilisation sera vraiment une très bonne
chose. Merci.
Merci,
Maître Adrien. Vous estimez que le fait que ces trois régies travaillent d'une manière distincte sur terrain, ça allège la tâche aux contribuables qui doivent maintenant savoir à qui on doit s'adresser, mais il y a aussi à un moment des confusions sur les droits, ce qu'on doit payer, qui doit percevoir, qui ne doit pas percevoir. Il faudrait clarifier tout cela, et puis il faut sensibiliser là, les contribuables hein, pour que les gens sachent comment ils doivent se comporter pour ce qu'ils doivent au trésor public. Maître Omar, vous êtes ici à Kinshasa, bonjour. Maître Omar, bonjour. Voilà, nous avons perdu Omar de Kinshasa. Nous avons un message ici, c'est Bénin qui nous a écrit de Kinshasa qui dit ceci. La fraude fiscale dans tous les pays du monde ne résulte pas du nombre des régies financières. Même en France, elle existe et le remède n'est pas la réunification de toutes les régies financières en une seule. Chez nous au Congo, c'est l'impunité qui fait couler les recettes fiscales. Nous pouvons avoir même 1 million de régies financières, mais si on sanctionne partout où il y a un moindre dysfonctionnement, il y aurait de l'ordre dans la fiscalité congolaise. Francis Mbopo lui dit ceci. Le plus grand problème, c'est le mental de l'homme congolais, de ces hommes congolais qui sont affectés à toutes les régies financières et qui ne travaillent que pour leur poche. Le plus grand problème, c'est le manque de volonté de se débarrasser soit de la fraude fiscale dans toutes les régies, soit de la corruption dans son intégralité. Fusionner, oui, on peut faire, mais les agents qui seront affectés à cette nouvelle fusion, ils viennent pour leurs propres intérêts ou ils vont travailler pour l'intérêt public. Voilà, nous revenons à vous, Michel Sommet, le temps que la ligne des auditeurs puisse s'arranger. Il y avait cette question d'abord de savoir s'il y a un avantage par rapport à ces trois régies financières qui travaillent d'une manière distincte. Vous avez suivi notre intervenant de tout à l'heure, mais aussi les deux messages de nos auditeurs. Et si et moi, si le fait que ces trois régies financières travaillent de manière distincte peut avoir des petits soucis pour lesquels on peut alors penser avoir une seule régie.
Non, le problème c'est que, bon, d'abord il faut savoir quand nous parlons de trois régies, elles étaient au départ des simples services au sein du ministère des Finances. Ce sont des simples services. Finalement, on a estimé que les recettes, comme j'ai dit, les droits de porte, les recettes sur les importations et exportations étaient tellement importantes qu'il fallait en faire une régie à part, une direction générale à part. Tandis que la DGI était restée, elle, comme un simple service de contribution au sein du ministère des Finances. Plus tard aussi, on lui a donné une certaine une relative autonomie. D'un côté, au fur et à mesure que l'économie progresse et qu'il faut améliorer les méthodes de gestion de l'économie, on en vient à une nécessité, ce qu'on peut appeler la division du travail et la spécialisation. C'est un principe économique simple. Pour améliorer l'efficacité d'un service, il faut le spécialiser dans une donnée précise, dans un domaine précis. C'est comme ça qu'on a pensé qu'il était important de spécialiser des services suivant la nature de l'impôt ou la nature de la taxe. On a estimé que, vu l'importance du commerce international, il fallait effectivement avoir tout un service qui n'était chargé que de ses droits de douane et autres programmes connexes. Et en même temps, compte tenu de l'évolution de l'économie interne, de l'évolution de l'activité intérieure, il fallait une régie, cette fois-là, capable aussi de mobiliser suffisamment de recettes, de lever, et c'est pour ça qu'on appelle plus précis, de façon plus courante, l'impôt. Parce que souvent, quand on parle de l'impôt, on ignore aussi que les droits des douanes font partie des impôts en réalité. Mais quand on parle de l'impôt, généralement chez nous, on voit l'impôt sur les bénéfices, on voit l'impôt sur les revenus, l'impôt comme ça. C'est bon, c'est aussi le domaine de la DGI. C'est compte tenu de l'importance que prend l'économie qu'on a estimé qu'il fallait spécialiser. Et quand la DGRAD est venue s'adjoindre à ces deux premières régies, c'est toujours en fonction de la nécessité d'améliorer la gestion des recettes, parce qu'il y avait un certain flou au niveau des recettes administratives. Judiciaire et domanial. Au niveau du ministère de la Justice, il y avait une gestion pour ce qui concernait les recettes judiciaires. Et chaque ministère, il y avait un petit cafouillage qui faisait qu'il fallait absolument qu'il y ait eu un service spécialisé à la hauteur de la tâche pour que cela amène une contribution plus efficace au budget de l'État. Donc le souci de la spécialisation et donc de la création de ces trois régies, et à mon avis, fondé sur la seule nécessité d'améliorer le budget de l'État et d'améliorer essentiellement le secteur ou du côté où se met la branche des recettes de l'État.
Alors, Michel, moi, je crois qu'au cours de l'histoire, on a eu beaucoup d'émissions aussi avec vous. Plusieurs fois, on a dénoncé la faiblesse de la mobilisation de ces recettes. Alors, mais si on peut y aller d'une manière concrète, parce qu'il faut des pistes, des solutions. Posons d'abord le diagnostic en bref. Alors, le souci était d'améliorer, vous l'avez dit, mais des problèmes aussi ont accompagné cette amélioration, ce qui fait qu'on a eu des problèmes de fraude, des problèmes d'écoulage, beaucoup de termes ont été utilisés. Alors, si on peut y aller d'une manière concrète, en quelques mots, alors, le problème s'est situé à quel niveau?
Le problème, mon frère, moi, je vais vous dire ce que je pense. Hein. Je ne dis pas ce que les autres disent. Hein. Moi, je pense que le M. Bernard vient de vous dire tout à l'heure, il y a des problèmes, les vrais problèmes ne sont pas dans du côté de trois régies, une régie, etc. Ce n'est pas ça le problème.
Mm-hmm.
Le problème, c'est qu'il y a la fraude, c'est connu. Le problème, c'est qu'il y a la fraude parce qu'il y a impunité, c'est connu. Moi, je crois que tout ceci procède d'une contrainte majeure. Et je l'avais évoqué lors de ces journées-là du Forum national. Je dis que l'homme congolais ne s'est pas encore approprié le système économique congolais. Simplement parce que le système économique national n'est pas encore, n'est pas encore véritablement congolais. Il n'y a pas, les Congolais, nous vivons dans l'économie qui fonctionne autour de nous comme des étrangers, comme des parasites dans une économie qui ne nous appartient pas. Parce que je l'ai déjà dit dans une émission sur Radio Okapi, il y a des pays où ne pas payer son impôt passe pour un crime et chacun a honte de n'avoir pas payé son impôt. Vous-même, il n'y a personne qui va vous le demander. Vous avez vous-même honte de ne pas payer votre impôt et vous vous estimez moins citoyen du seul fait que vous n'avez pas payé l'impôt. Il y a des pays comme les États-Unis d'Amérique où l'association fiscale tient presque lieu de carte d'identité. Donc après l'association fiscale, on vous prend au sérieux. Et chaque citoyen est fier de présenter cela. Sauf pourquoi? Parce qu'il sait que cette économie lui appartient. Mais nous sommes en train d'évoluer dans un système qui a été conçu essentiellement pour les intérêts étrangers et jusqu'aujourd'hui nous avons des problèmes pour pouvoir, tropicaliser, pour pouvoir plutôt nationaliser ce système-là. J'ai évoqué cette question en parlant des contraintes, par exemple, infrastructurelles.
Mm-hmm.
En disant, regardez les routes que nous avons. Nous qui sommes un pays en train de baigner dans les eaux qui devrait développer un système de navigation, un système fluvial, un transport fluvial très moins cher, très développé, très amélioré. Mais nous sommes en train jusqu'aujourd'hui de perpétuer le tracé des routes qui avaient été conçues essentiellement pour la spoliation de notre économie. Le colonisateur est venu nous créer une route principale qui partait du grand site de production du cuivre de la Gécamine au Katanga vers son point d'exportation à Matadi. Et c'est ça qui s'appelle la nationale numéro 1 que nous respectons tout pour dire voilà la nationale numéro 1, alors que ce n'est pas une nationale, ça c'est une route pour l'extraversion de l'économie du Congo. Donc, nous continuons ce système, nous perpétuons ce système. C'est pour ça que je vous dis, nous devons nous arrêter un instant pour construire notre économie nationale, construire notre fonction de production, notre fonction de consommation, en fonction des réalités qui sont les nôtres, en fonction de la culture qui est la nôtre. Et alors, à ce moment-là, chaque citoyen se sentira concerné par cette économie à laquelle il aura pris part pour l'élaboration de son édifice. Tant que cela n'est pas encore le fait, nous sommes en train de vivre, nous, les Congolais, nous vivons à la périphérie de l'économie que nous appelons congolaise. L'essentiel de l'économie est entièrement entre les mains des étrangers, des multinationales. C'est eux, ces étrangers, qui produisent le cuivre, le cobalt, l'or, le diamant, pas de Congolais. Et nous vivons accrochés aux miettes que ces gens acceptent de céder à notre budget ou à notre économie. Mais ça, c'est pas normal. Il faudrait que le système bancaire, pour en parler, n'est qu'entièrement étranger. Il finance principalement aussi les étrangers. Nous sommes là comme des parasites, et ça nous tombe comme des miettes, et nous recueillons par-ci, par-là, un petit crédit, parce que j'ai eu la chance de ceci, de cela, et pour avoir un crédit, il faut passer par le jeûne et prière. Dans une économie normale, ça ne va pas de choses comme ça. C'est ce qui fait que, même pour payer l'impôt, le Congolais ne se sent pas concerné, parce que cet impôt-là ne finance pas son économie. Ça finance une économie étrangère. Et c'est là le grand problème que nous avons. Il faut rompre le système actuel. Il faut une rupture totale et systématique. Nous devons pousser la réflexion un peu plus loin et avoir plus de courage. Et c'est pour ça que je dis toujours, même quand on a parlé de ce forum, j'ai dit, je suis malheureux d'entendre tout le monde dire transfert des technologies. Mais pourquoi on doit nous penser transfert des technologies? Pourquoi nous, on ne peut pas inventer nos technologies? Qu'est-ce qui bloque notre intelligence, notre mentalité, pour que nous puissions nous-mêmes aussi créer notre technologie à partir de nos réalités profondes qui sont les nôtres, qui sont totalement différentes de celles de ceux qui veulent nous transférer la technologie? C'est ça la colonisation. La main qui donne restera toujours au-dessus de la main qui reçoit.
Voilà.
Et nous vivons dans la maison de nos parents, comme des étrangers chez nous. parce que les intérêts qui sont les nôtres ont été bradés au profit des étrangers. Et c'est ça le grand problème.
Voilà. On va revenir à vous. La question elle doit être abordée d'une manière profonde. Bénin l'a dit dans son message. On peut avoir des millions de régies financières, on peut avoir une seule régie financière. Et Franck, lui, a parlé la capacité et la volonté dans l'homme congolais de pouvoir créer autre chose, de pouvoir proposer autre chose. Cela peut résoudre le problème de la fraude, le problème de mobilisation des recettes, la centralisation de l'économie, la nationalisation de l'économie, comme vous l'avez dit. Et comme ça, ça peut profiter à tous les Congolais. Ils pourront maintenant être impliqués dans l'impôt et, en définitive, nous amener au développement que nous souhaitons. 081-890-1515, Clovis et Tambujima et Bena Kinshasa, nous allons vous accorder la parole.
Ils parlent de leur vie, de leur parcours et se livrent à cœur ouvert. Grand Témoin invite des femmes et des hommes de culture, des acteurs politiques, sociaux et du monde économique qui ont croisé différents événements et les changements qui ont accompagné les grandes étapes de la construction du pays. Grand Témoin, 45 minutes pour mieux comprendre notre histoire commune racontée par ces acteurs. Tous les dimanches, 12h15, heure de Kinshasa, en compagnie de Kelly Kouté sur Radio Capi.
John Ozan de Boutembo dit ceci, je suis d'avis avec Jean-Yves Parent pour assainir le secteur fiscal de l'État, mais le problème du rajeunissement du personnel finira par poser, va compliquer la situation, vous savez, ça sera difficile aujourd'hui dans notre pays de pouvoir envoyer les gens à la retraite, les décomptes finales, cela risque de paralyser ces mêmes régies financières, mais tout cela ne peut se réaliser que quand il y a la bonne gouvernance. Mais pour lui, il pense qu'avoir une seule régie financière va se poser un problème de l'unité des commandements, un problème de méfiance. Mais le problème aujourd'hui, ce n'est pas d'avoir plusieurs régies financières, mais c'est uniquement de pouvoir travailler et améliorer la situation de l'homme qui travaille dans les régies financières. Et ça, c'est une douche, bonne idée, mais ce qui ne peut pas marcher dans notre pays, c'est quand on touche à ce qui concerne les finances. Ça devient très sensible parce que beaucoup de personnes se retrouvent dans les pratiques qui font disparaître les recettes de l'État. Clovis, vous êtes en Boujima et bonjour.
Bonjour à tous les amis de la radio CAF.
On vous écoute, Clovis.
Merci bien. Nous avons suivi les uns et les autres vraiment par rapport à ce qu'on a proposé. Je crois que cet expert a raison, mais il faut aussi tenir compte des conséquences de tout ce qui peut arriver. Aujourd'hui, prendre la DGI, DGA, DGDA, mettre une seule régie financière, c'est pas aussi une chose moindre. Ça va demander beaucoup d'efforts et ça doit demander aussi un changement de mentalité, quoi. Vous trouvez quelqu'un qui était chef au niveau de la DGI et aujourd'hui il est devenu agent, vous trouverez qu'il y aura beaucoup de méfiance et il y aura à ce niveau-là des bâtons de commandement. Et en même temps, je crois qu'au niveau du personnel, si quand même on veut agir, ça, moi, je salue ça. Pourquoi? Parce qu'il y a même dans notre pays, on sait qu'à telle période ou qu'à tel âge, on doit être passionné. Mais c'est qu'on n'assiste pas, on trouve qu'on travaille même jusqu'au-delà de la limite d'âge. C'est qu'on trouve qu'aujourd'hui, même les jeunes gens qui peut-être ont étudié ont aussi un peu d'expérience en matière économique n'ont pas d'emploi. Pourquoi? Parce que les pieds se trouvent encore là. Je crois qu'on doit essayer quand même à retrouver à ce niveau-là pour rajeunir le personnel. Et on trouve que dans certains services, il y a des personnes fictives qui touchent l'argent de l'État, mais on ne sait pas comment les découvrir. Je crois aussi, si on veut aborder une question comme celle-là, aussi on doit tenir compte des mécanismes et des paramètres. Mais ce qui manque dans notre pays, c'est que quand on veut aborder une question, on ne sait pas faire le suivi. C'est ça. Si c'est ce qu'on a dit, si vous ne faites pas le contrôle, vous êtes en train de tenter le diable. C'est ça ce qui fait. Même si on a 3 régies ou 4, mais si on ne fait pas le suivi par rapport à ces régies que nous avons, je crois qu'on est en train de tenter la porte du diable. Et on ne sait pas ce qui se passe là-dedans. C'est ce qui va faire en sorte qu'on ne puisse pas trouver que non, les régies financières de notre pays ne nous donnent pas seulement ce qu'il faut. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas seulement un suivi, il n'y a pas seulement un contrôle au niveau des autorités. Je crois qu'on doit s'essayer tout d'abord à contrôler ce qui se passe actuellement avant de concentrer tout d'abord qu'on ait une seule régie.
Une seule régie financière. Merci. Merci beaucoup, Clovis. Vous estimez que ça peut prendre du temps? Le problème du rajeunissement du personnel dans nos régies financières, il est réel. Vous estimez qu'il y a des gens qui travaillent jusqu'au-delà de l'âge requis sur les plans juridiques. Il y a aussi le problème des effectifs, il faut assainir. Mais le problème aujourd'hui, c'est de pouvoir contrôler ce qui se fait au niveau de nos régies financières, plutôt que peut-être d'en créer une autre, comme le disait tout à l'heure Béna dans son message. Mais il est avec nous maintenant sur les antennes en direct. Béna, vous êtes ici à Kinshasa, bonjour.
Bonjour.
On vous écoute.
Ok. Comme je l'ai dit, bien sûr, je trouve que l'initiative en soi n'est pas mauvaise. Mais ce qui est un peu curieux, personnellement d'abord, il faut qu'un expert français vienne nous donner une initiative, alors que nous-mêmes, nous avons des rencontres, des forums et qu'on fait aussi la gestion de ces entreprises-là. Mais quand cela ne tient, moi, je ne suis pas d'accord, parce que pour moi, la cause de fraude fiscale n'est pas cette diversité des régies financières. Mais la cause réside au niveau des agents, qu'il faut d'abord bien rémunérer, et puis en plus, il faut punir. Lorsqu'il y a détournement, lorsqu'il y a fraude, la cause principale, c'est l'impunité. Parce que, comme je l'ai dit, même si nous avons 1 million de régies financières, partout il y a tentative d'une aventure de fraude, on punit sévèrement. Je crois que c'est ça la solution. Mais je ne pense pas que la fraude fiscale soit une affaire congolaise, bien que tout le monde sait que partout, en France, on en parle aussi. Mais cette idée, la France n'a pas résolu ou ne compte pas résoudre la fraude de ces régies financières par cette fusion-là ou le mouvement de toutes les régies, là, ce n'est pas la solution. C'est pourquoi je ne suis pas d'accord avec cette idée de l'expert français, mais je sais que le Congolais et même, donc l'autorité congolaise, le pouvoir, peut arrêter avec l'impunité et voir les recettes du pays régorger dans les besoins nationaux. Mmh. Voilà. Et je voudrais aussi souligner le fait que nous avons des experts aussi nationaux, mais qui n'ont pas tenté de résoudre certains problèmes chez le voisin, dans d'autres pays, ou voire même en France. Mais il suffit que un expert français vienne dire voilà ce que vous devez faire, l'expérience de la France est dite là, et on crée toute une réflexion autour d'une seule initiative, comme si au niveau national, ils ne pouvaient pas améliorer la situation sans l'apport de réflexion extérieure. Voilà un peu ma participation.
Maintenant, en attendant, vous avez suivi les précisions avec notre invité, Michel Sommet, qui est aussi expert et qui a eu aussi une part d'intervention, n'est-ce pas, dans ces forums. Il y a eu beaucoup d'intervenants, chacun avait un aspect qu'il a abordé, Michel Sommet avait un aspect abordé, mais nous avons pris dans ces débats l'aspect en ce qui concerne les régies financières avec cette proposition de l'expert français. Il y a eu aussi beaucoup d'autres experts et beaucoup de matières ont été abordées. Notre invité, qui était aussi parmi les experts, nous a donné en bref les questions qui ont été abordées, ce qu'il a aussi abordé. Mais il y a beaucoup de matières que nous pouvons exploiter, que ce soit en ce qui concerne l'industrialisation, parce qu'il faut aussi en parler. L'accès à l'énergie, notre invité l'a évoqué, il faudrait en parler, mais on a pris pour cette première émission l'aspect régie financière, mais on peut s'étendre sur autant de matières qui ont été abordées au cours de ces forums. Merci beaucoup, Béna, de nous avoir appelé de Kinshasa. Honorable Bosengué, vous êtes député provincial, vous êtes à Kisangani, vous nous appelez de là, en province orientale, vous êtes avec nous, bonjour.
Bonjour, messieurs les journalistes de la radio Capi. Mmh. Je voudrais également profiter pour saluer notre invité. Je voudrais participer en disant ceci. L'idée n'est pas bonne. La thématique est très importante pour nous, mais l'idée n'est pas bonne. Mmh. Mais je voudrais relever le fait que nous avons la loi sur les finances publiques qui a été promulguée en 2011. Cette loi voudrait que les finances de la province et du pouvoir central soient régies selon certaines règles. C'est dans ce cadre que je voudrais dire que cette loi doit être d'application en dehors de 7 ans. Et cette loi voudrait également que les finances, selon certaines catégories, puissent suivre toutes les règles en corrigeant ce que nous avons connu dans le temps, comme fraude et ainsi de suite. Alors, je voudrais dire ici que cette proposition n'est pas opportune dans la mesure où nous devons d'abord expérimenter ce que nous avons actuellement dans les finances publiques des provinces et du pouvoir central. Ensuite, procéder de cette manière-là, il faudra saisir les assemblées provinciales et les ETD qui doivent aussi donner leur expertise par rapport à la manière où les recettes sont perçues à la base. Certes qu'il y a la fraude, il y a tout ce qu'on peut déplorer, mais pour le moment, procéder à un changement, c'est, ça serait faire un bouleversement du paysage financier congolais. Il faudra beaucoup de temps, c'est pourquoi nous encourageons que cela puisse venir, mais ça ne sera pas moins de 10 ans. On doit aller au-delà de 10 ans pour que cette
proposition soit mise en application. Voilà, merci beaucoup, honorable Bossengué. Vous estimez qu'il y a la loi sur les finances publiques, il y a toute l'architecture fiscale aujourd'hui avec les provinces, notre invité l'a évoqué, mais si on doit engager une telle réflexion, il faudrait que ça prenne du temps, il faut consulter les entités territoriales décentralisées, il faut consulter la base, parce qu'aujourd'hui la question de la fiscalité elle est provinciale et nationale, mais l'idée peut être et garder en tant que tel, ça va demander beaucoup de réflexion pour y arriver. Nous avons Maître Trésor, c'est ici à Kinshasa. Maître Trésor, vous êtes avec nous, bonjour.
Bonjour Pierrot, c'est Maître Trésor Liconza de Kinshasa.
On vous écoute, Maître Trésor.
Oui, l'expert français a fait des propositions pertinentes, mais qui nécessitent quelques atténuations. En premier lieu, je dirais que l'immensité de la RDC ne donne pas lieu à la fusion des trois régies financières. Sinon, cela risquerait d'alourdir encore le travail. Pourtant, susciter aussi une inquiétude pour le gouvernement qui attend de ces régies les moyens nécessaires pour réaliser son budget. Et vous savez, les deux régies, DGI et DGRAD, sont des régies financières thématiques. La DGI s'occupe des recettes fiscales, la DGRAD des recettes non fiscales. La DGDA constitue la synthèse des deux. Elle perçoit les impôts et les taxes au niveau des frontières. Déjà avec les trois régies, nous connaissons trop de problèmes sur le plan fiscal. Alors, les fusionner, ce serait encore créer un chaos fiscal au niveau du pays. C'est pourquoi je pense qu'il ne serait pas opportun pour le moment de penser même à cette fusion-là. Et d'ailleurs, en matière fiscale, il n'est pas bon de toujours imiter ce que font les autres, puisqu'il n'y a pas un système fiscal identique dans ce monde. Bon, quant au rajeunissement du personnel, c'est tout à fait correct et cohérent. Mais que cela se fasse dans le respect des droits du personnel vieilli. Je voudrais ici aborder la question par rapport à la retraite. Il faudrait que le gouvernement prévoie déjà les soldes de tout compte des agents à retraiter. Mais que cela se fasse aussi progressivement. Il ne faut pas aller brutalement parce qu'il y aurait encore d'autres problèmes dans des régies. Bon, par rapport à la réduction du nombre au cours des missions fiscales, ce nombre s'évalue à combien? On ne sait pas. On ne connaît pas les nombres. On n'a pas donné les chiffres. Vous avez seulement parlé du nombre. C'est bon. S'il faudrait réagir, moi je dirais que la réduction du nombre, c'est aussi bien pendant les missions fiscales, mais que cela dépend de telle ou de telle mission fiscale, vu la pertinence
de chaque mission. Voilà. Merci beaucoup, Maître Trésor, de nous avoir appelé de Kinshasa. Michel Sommeux, vous avez suivi les uns et les autres dans son intervention. Le directeur général de la DGI avait évoqué l'expérience du guichet unique parce qu'il y a eu beaucoup d'inquiétudes autour de ça. C'est effectivement pourquoi on a même pensé à instaurer un guichet unique qui pouvait permettre à centraliser, n'est-ce pas, toutes ces parts pour avoir au moins un œil et une canalisation de ces recettes de l'État. Vous allez placer un mot par rapport à ça, à l'idée du guichet unique qui a été instauré, mais aussi dire un mot par rapport aux intervenants de nos auditeurs de tout à l'heure.
Oui, vous savez, c'est la même chose, en train de dire. Le guichet unique, c'est toujours dans la recherche des solutions pour diminuer ou réduire ce qu'on appelait les tracasseries. Ce sont des opérateurs économiques qui se sont abondamment plaints des tracasseries administratives. Il fallait créer un guichet unique. De l'autre côté, du point de vue de l'État, ce guichet unique permettait de réduire la fraude et surtout les, j'allais dire, passez-moi le terme, le vol qui se produit au niveau des régies financières. Alors, on a pensé qu'avec le guichet unique, on allait résoudre le problème. On n'est toujours pas arrivé à la solution à ce problème. De la même façon, comme tout le monde le dit pratiquement, disons, du moins la majorité, la fusion des trois régies en une seule, c'est un...
Voilà, on a des petits soucis de ligne avec notre invité Michel Somoé. C'est la réalisation pour voir comment le récupérer tout à l'heure. Là, on l'a perdu il y a quelques secondes alors qu'il intervenait par rapport à la création du guichet unique, hein, mais qui apparemment n'a pas résolu le problème selon son intervention. Mais alors, les pistes et des solutions plus efficaces, on a... Oui, vous êtes là, Michel Somoé, vous avez perdu tout à l'heure.
Je vous entends parfaitement.
Ah, voilà, allez-y, c'est votre ligne qui était un peu perturbée.
Je disais que le guichet unique n'a pas résolu le problème de la même façon que la fusion de trois régies ne va pas résoudre le problème.
Mm-hmm.
Parce que nous ne sortons pas du contexte. Je voudrais rappeler que nous avons analysé ces solutions par rapport à la question essentielle de l'industrialisation de l'économie congolaise.
Oui.
C'est là le problème. On qui parle d'industrialisation, c'est utile parce que nous parlons de la croissance, nous visons l'émergence, etc. Il n'y a pas de croissance possible et d'émergence en perspective s'il n'y a pas un secteur secondaire fort et bien structurant. C'est en cela que consiste l'importance de l'industrialisation. Or, qui dit industrialisation voit deux aspects principaux. Le premier aspect principal, je l'avais dit dans ce forum, c'est d'abord la propriété privée, le respect du droit de propriété. Deuxième aspect important, c'est l'accumulation, c'est-à-dire une fonction qui appartient à une catégorie d'hommes qu'on appelle, ou à une classe sociale qu'on appelle la bourgeoisie. Quand vous regardez ces deux aspects, qui sont des aspects essentiels de l'économie d'un pays, vous allez vous rendre compte que chez nous, ce sont des réalités volatiles, frivoles. J'ai indiqué que le droit de propriété n'est pas sécurisé dans ce pays. Le cadre sécurisant le droit de propriété n'inspire aucune confiance à partir du moment où le droit de propriété de lui-même, de l'État lui-même, est régulièrement violé, bafoué. Aujourd'hui, l'État propriétaire de 2,345 000 km² voit l'essentiel de son patrimoine tomber dans le régime de comment on appelle encore, du patrimoine commun de l'humanité. L'État n'est pas capable de défendre ce qui lui revient. Alors, or, la propriété privée procède en quelque sorte du lotissement d'une partie du patrimoine public. Il lui-même n'est pas défendu, protégé par un droit relevant ou appartenant à l'État congolais lui-même. Pour ce qui concerne l'accumulation, la bourgeoisie, chez nous, nous avons un problème de classe sociale. La bourgeoisie que nous avons, c'est-à-dire celle qui accumule aujourd'hui beaucoup de richesses, c'est une bourgeoisie comprador. Ce n'est pas une bourgeoisie qui est là en faveur de l'industrialisation, en faveur des investissements productifs, en faveur de la création des emplois. Et de là, je fais un pas de nez sur la question du rajeunissement du personnel. Je dis encore une fois, c'est un faux problème. Là aussi, c'est un faux problème. Parce que la question ici consiste simplement en l'organisation d'un marché du travail flexible, qui reposant sur le simple principe de la compétitivité. Et le meilleur l'emporte et le marché fonctionne, c'est tout. Tant qu'il n'y a pas un marché de travail organisé dans ce pays, nous allons continuer à vivre cette administration lourde. Et on va avoir des mêmes problèmes avec l'État pour dire non, il faut mettre les gens en retraite, ils sont déjà trop vieux, alors qu'eux disent nous sommes encore jeunes, on a encore la force, etc. Un conflit inutile. Enfin, laissez-moi indiquer quelque chose, mon point de vue personnel sur toute cette question, c'est peut-être une proposition que je voudrais faire. Je l'ai dit plusieurs fois sur plusieurs antennes et je le répète, à mon humble avis, si l'on veut vraiment améliorer l'économie, créer une économie nationale, une économie congolaise, qui appartient à la nation congolaise, avec un processus d'industrialisation lisible, visible, crédible, je pense qu'il faut commencer par décréter au moins une année d'amnistie fiscale. Pourquoi ? Parce qu'aujourd'hui, 95% de l'activité économique, du moins celle qui relève des Congolais, s'opère essentiellement dans l'informel. Vous n'avez pas une administration fiscale capable de saisir l'informel. L'informel est très mobile. Je vous ai déjà indiqué, le matin, monsieur ouvre sa boutique, c'est écrit boutique d'habillement. À midi, ça change de nom, ça devient un dépôt de boissons. Le soir, ça a changé, c'est devenu une église. Après-midi, ça sera, ou peut-être le demain matin, ça sera peut-être un atelier de couture. Vous n'avez pas une administration capable de suivre une telle dynamique. Alors, ça fait que c'est ça l'économie essentielle du Congo. Comment vous allez avoir un impôt, lever l'impôt si facilement? C'est pas possible, même si vous fusionnez les trois régies, vous n'y parviendrez pas. Commencez par décréter une amnistie fiscale pour permettre aux Congolais de s'organiser, d'organiser des entreprises avec le soutien de l'État, avec le soutien du système financier, du système bancaire, qui doit appuyer l'activité. Et à ce moment-là, personne ne va fuir l'État, personne ne va fuir l'impôt, chacun voudra se faire identifier, se faire connaître parce qu'il sait qu'il pourrait avoir facilement accès au crédit, il pourrait avoir accès au marché public, il pourrait avoir accès à ceci, à cela. Et au bout d'un temps, quand ces gens se sont organisés, à ce moment-là, l'État peut venir en sachant que ces entreprises produisent déjà et qu'elles font du profit. Et c'est sur le profit qu'ils vont venir poser l'impôt. Mm-hmm. Il ne faut pas venir avec l'impôt pour bouffer le capital des gens. Ce n'est pas possible. Voilà pourquoi je dis qu'il y a un schéma, il y a une réflexion qu'il faut pousser.
Oui.
Il faut construire une économie et ça prend du temps. Ne nous précipitons pas à faire comme un intervenant a dit, parce que les autres le font chez eux, imitons ce qu'ils font. Mais ce qu'ils font chez eux, ils avaient commencé par construire. Nous, on ne prend pas comme ça le train en marche, on ne sait pas d'où ça vient et où ça va nous amener, c'est dangereux. On ne construit pas du sable sur le sable mouvant. Faisons d'abord la fondation, mettons en place les piliers nécessaires de l'économie nationale et oublions dans un premier temps cette histoire d'impôts et de taxes. Créons une amnistie fiscale en faveur de tous les entrepreneurs congolais qui veulent s'engager dans l'activité économique, vous verrez qu'il y aura peu de gens dans la politique et beaucoup reviendront à l'économie.
Mmh. Merci beaucoup. On va revenir à vous pour la conclusion. Le temps d'écouter les deux derniers auditeurs, je crois bien, c'est Lucien qui est ici à Kinshasa et Désiré à Libengué dans la province de l'Équateur. 081-890-6315.
Parole aux auditeurs.
Félicien, vous êtes avec nous, bonjour.
Bonjour, monsieur Pierrot.
On vous écoute, Félicien, on tend vers la fin de cette émission. Vous avez suivi les uns et les autres. L'idée aujourd'hui, c'est d'avoir des mesures plus efficaces hein, qui puissent nous permettre d'atteindre notre environnement fiscal et qu'il soit profitable à la construction du pays. Vous avez suivi les pistes de solutions avec notre invité qui pourra revenir pour conclure. Quel est votre point de vue?
Merci beaucoup, toujours, monsieur Pierrot, que trop d'impôts tue l'impôt, et de même pour la multitude de taxes que nous avons dans ce pays. Mais je ne crois pas que qui se pose un problème de structure, mais il y a plutôt un problème d'homme dans ce pays. Et il y a un problème d'antivaleur au niveau de la gestion de la chose publique. Et nous avons dans notre pays institutionnalisé la corruption, le clientélisme, le tribalisme et l'impunité. Comment peut-on comprendre que les dirigeants et autres responsables de ces régies financières soit plus riche que l'État lui-même? Et quand on considère les salaires et autres avantages légaux de ceux qui gèrent ces institutions, on ne peut pas comprendre l'opulence qu'ils affichent et devant tout le monde sans que personne ne s'en offusque. Nous pouvons développer toutes ces théories, mais tant que nous ne combattrons pas ces antivaleurs dans notre système politique, nous ne pouvons pas réussir. Et savez-vous que notre douane est parmi les plus chères du monde?
Mm-hmm.
Et nous avons une multitude de taxes et les gens ne savent pas comment investir. Mais comment alors on peut favoriser l'industrialisation ou la consommation des ménages dans ce genre de système? Moi, je pense que le plus grand combat reste le combat contre la corruption et autres antivaleurs, et nous allons nous en sortir.
Merci beaucoup, Félicien. Il faut combattre les antivaleurs. Alors, sinon, ça sera difficile qu'on puisse se retrouver dans ces systèmes. Désiré, vous êtes à Libengué, dans la province de l'Équateur. Vous êtes avec nous sur les antennes. Bonjour, Désiré.
Bonjour, Pierrot. Je crois que ce n'est pas opportun pour que toutes ces dispositions soient mises en pratique. Parce que les dispositions qui ont été prises relative à la rétrocession des recettes de province par le gouvernement central devait constituer un test pour ce système. Or, jusqu'à aujourd'hui, je crois que ces rétrocessions ne roulent pas normalement, parce que dernièrement, nous avons parlé avec vous, où il y a le ministre de l'Intérieur qui avait fait une réunion avec le gouvernement concernant ces rétrocessions. Donc, ces rétrocessions n'ont pas eu le résultat escompté. Revenons au budget unique, tout tourne autour d'hommes. C'est un problème d'hommes. Parce que les hommes qui travaillent dans ces régies financières ne sont pas bien suivis. Et les recettes de l'État, les gens ne partent pas des recettes de l'État. Donc, comment on peut revenir à faire encore la fusion. C'est comme si on désabillait cette photo à Pierre Saint-Pierre, parce que ce jour-là, on s'est retrouvés ensemble, ou bien réduits. Ils vont faire aussi produit le même résultat, donc il n'y aura rien. Il n'y aura rien. Donc, même, je peux donner l'exemple. Vous êtes joueur, vous serez bien joueur, vous portez la valise de Messi, vous n'allez pas jouer comme Messi, vous allez jouer toujours comme vous, comme ce que vous êtes habitué à faire ordinairement.
Voilà,
donc, je pense que c'est important pour vous à Dieu Saint-Pierre.
Saint-Pierre, merci Désiré. Le problème, c'est un problème d'homme, vous l'avez dit. Nous avons terminé pour la partie qui concerne les auditeurs avec le professeur Robert qui nous appelle de l'université de Kinshasa. Professeur, en 2 minutes, vous avez suivi les uns et les autres. Plusieurs estiment que le problème aujourd'hui, c'est pas d'avoir une multiplicité de régies financières. Notre invité y est allé directement pour expliquer qu'il faut répondre, il faut penser à créer un système économique nouveau. Félicien parle de l'homme, les antivaleurs. Voilà autant de préoccupations pour arriver vraiment à avoir une fiscalité souple qui permette aussi à l'État de pouvoir retrouver les recettes comme il faut et apporter le développement, l'industrialisation, parce que c'était le thème même de ces forums. Alors, on vous écoute. Vous avez suivi les uns et les autres pour terminer. Professeur Robert.
Merci, monsieur Pierrot. Bonjour et bonjour à monsieur Somoué qui est invité. J'abonde pratiquement dans le même sens que tout le monde, sauf que j'aimerais insister sur le fait que les valeurs congolaises existent, les experts congolais existent. Recourir à l'expertise étrangère, ça vraiment, aujourd'hui, en tout cas moi, je ne suis pas partant.
Mmh.
Je préférerais que on pense mettre l'accent sur l'homme qui doit organiser, l'homme qui doit gérer. Et dans cette gestion, j'ai toujours mis l'accent dans cette tribune ici sur la motivation. La motivation pour atteindre le rendement. Si jamais on s'occupe de celui qui travaille à la douane d'une manière sincère, on le paye très bien, on surveille sa vie, et à sa sortie, quand il a terminé sa carrière, on lui donne son décompte final. Je crois que nous aurons fait des hommes honnêtes et corrects. Mais puisque l'État qui utilise ces personnes sans une motivation réelle, sans le payer convenablement, j'avais préparé ici ce que j'ai appelé l'équation managériale de la motivation. À plus forte motivation correspond un plus fort rendement. À moyenne motivation correspond un moyen rendement. À faible motivation correspond un faible rendement. Donc si on surveille ces jeunes gens qui travaillent, on les paye bien, ils ne seront pas tentés d'être corrompus et notre douane sera très bien, nos impôts seront très bien parce qu'aujourd'hui, je vous ai même dit la fois passée. Je suis allé à Matadi, 90% des débits de boissons et des hôtels appartiennent aux douaniers et aux agents de l'impôt. Allez-y voir, vous vérifiez, vous allez constater ça.
Mmh.
Donc, ce sont ces réalités qu'il faut prendre en compte pour essayer d'améliorer nos services. Excusez-moi. Bon, alors, à propos des... Excusez-moi,
allez-y rapidement dans 20 secondes parce qu'il faudrait qu'on puisse conclure avec notre invité. Oui, allez-y, professeur.
Ok. En ce qui concerne, par exemple, ce problème des expatriés dans nos services, les projets qu'on a vus à Lumatra, ça a foiré, à l'OFIDA, ça a foiré. Et c'est dire que recourir à ce genre d'expertise, ça ne vaut pas la peine.
Voilà, merci beaucoup, professeur Robert. Nous revenons encore à vous, Michel Somoué, pour terminer cette émission. On a suivi les uns et les autres. On dit encore à nos auditeurs que ça a été une proposition d'un expert français dans un forum où il y a beaucoup de Congolais qui ont aussi participé. Peut-être que le forum n'a pas été assez médiatisé aussi. Michel Somoué, c'est ça aussi autre chose. Quand vous écoutez beaucoup de nos auditeurs, et nombreux n'ont même pas su qu'il y a eu un forum qui s'est tenu à Kinshasa où il y a eu plusieurs réflexions. Hein. Je crois peut-être que ça n'a pas assez été médiatisé. Mais alors, on a suivi les uns et les autres en une minute. Qu'est-ce qu'on peut retenir?
Si je rebondis sur les 3 dernières interventions, elles insistent toutes pratiquement sur la question des antivaleurs. Nous sommes un système d'antivaleur et tout le monde le sait. Et c'est pour ça que j'ai posé la question de départ pour dire nous devions plutôt nous préoccuper de savoir pourquoi il y a impunité, pourquoi il y a ceci. C'est parce qu'il n'y a pas de synergie aujourd'hui, il n'y a pas mariage, il n'y a pas amitié entre le citoyen congolais et l'économie qui fonctionne dans ce pays. Il faut que nous puissions mettre en place un processus d'appropriation de notre économie pour que le Congolais se sente être lui-même le bâtisseur de cette économie nationale. Il nous faut rompre avec l'ancien système et commencer un nouveau système. La question de l'expertise extérieure, comme a dit le professeur Robert et autres, je l'ai mentionné dès le départ en vous disant que j'ai eu beaucoup d'intervenants. Je dirais même que l'intervention que vous avez choisie n'a pas été la meilleure de toutes les interventions qui ont eu lieu. Il faut le dire. Mais je ne sais pas pourquoi Radio Okapi qu'on passe par là. On aurait peut-être dû commencer par les contraintes avant de voir les solutions pour mieux comprendre les solutions qui ont été proposées par rapport aux contraintes qui ont été évoquées. À ce moment-là, on pourrait.
Oui, mais Michel Sommet, c'est pour dire qu'il y a eu beaucoup d'aspects dans le forum. Comme je le disais, le forum peut avoir aujourd'hui plus de 50 émissions. On peut revenir sur autant de questions. On y va, on peut dire palier par palier, mais du moins, on aborde quand même un aspect. Il y a d'autres aspects que vous avez évoqués qui peuvent revenir dans cette émission. Mais rapidement, pour terminer.
Je ne vous le reproche pas, mais seulement vous considérez que ça aurait été plus compréhensible que vous ayez commencé par les contraintes qui ont donné lieu à ces solutions-là. C'est ce que vous avez dit.
Et en 10 secondes, oui, pour terminer, les derniers mots, oui.
Pour terminer, je redis ceci, que, à mon très humble avis,
oui, merci.
Une économie comme la nôtre, qui est dominée essentiellement par l'informel, signifie simplement que
merci.
Ceux qui sont dans l'informel ne croient pas à ce qui se passe dans ce pays.
Merci beaucoup, Michel Sommoyer. Voilà, merci beaucoup, Michel Sommoyer, d'avoir accepté notre invitation. Merci à Jean-Claude Siala et Julie César, l'équipe qui nous aide à produire cette émission, que vous allez retrouver sur www.radiocapi.net. Au revoir.